I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 9 and verse 16.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc au chapitre 9 au verset 16. L'Évangile de Luc, chapitre 9, verset 16. Alors Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit et les rompit, et les donna aux disciples pour les présenter au peuple. Nous voyons ici le miracle de la multiplication des pains, où 5000 hommes étaient présents. Et peu de temps auparavant, il y a eu un miracle très semblable, où 4000 personnes ont été nourries. Et c'est là un miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, peu de temps après l'exécution de Jean-Baptiste, par la main d'Hérode. C'est là probablement le mois d'avril 29. Un an plus tard, le Seigneur ira à la croix du calvaire et sera crucifié. Et là, il fera cette expiation pour les péchés de tous ceux qui seront sauvés dans toute l'histoire du monde. Mais il y a encore une année avant cet événement. Il y a ici ce grand miracle où le Seigneur nourrit 5000 personnes. C'est à la fin de son ministère qui a duré un an parmi les Galiléens. Ici, ça se passe à Bethsaïda, sur la rive nord-est du lac de Galilée. Il y a là le Seigneur qui donne une prédication sur cette colline. Et je vais passer de verset en verset ce soir, au chapitre 9, verset 7. Cependant, Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce que Jésus faisait, et il était fort perplexe, parce que les uns disaient que Jean était ressuscité des morts. C'était là la rumeur que certains avaient répandue. Et Hérode, qui était superstitieux, était terrifié par cela, parce qu'il avait exécuté Jean-Baptiste. Et beaucoup d'autres personnes ont répété cette rumeur, comme nous le voyons dans ce passage, et au verset 8, et d'autres, qu'Élie était apparu. Ce vieux prophète, Élie, était apparu, et d'autres, que l'un des anciens prophètes était ressuscité. Et je vais parler de ces choses plus tard. C'est extraordinaire que les gens pensent ceci de Christ. Ceci était à cause de la nature de ces miracles. Ils étaient extraordinaires, merveilleux, et ils n'avaient pas vu de miracle en Israël. Pendant à peu près 400 ans, le ministère des prophètes leur a été retiré, et les miracles étaient retirés. L'écriture de l'Ancien Testament était finie, il n'y avait pas de nouvelles révélations. Et Dieu a enlevé ce privilège. Et nous voyons ici Christ qui, par ses miracles, il pense que l'un des anciens prophètes était ressuscité. Cette rumeur était répandue parmi le peuple. Et au verset 9, Hérode disait « J'ai fait couper la tête à Jean, mais qui est celui-ci dont j'entends de telles choses ?» Et il souhaitait de le voir. Oh, cette pensée est là dans l'évangile de Luc. Mais le récit du ministère de Christ continue au verset 10. Les apôtres étant de retour, Christ les avait envoyés avec cette puissance de faire dans une certaine mesure ce qu'il faisait, de guérir les malades, de chasser les démons de ceux qui étaient possédés de démons, etc. Et les apôtres étant de retour, ils racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et les ayant pris avec lui, il se retira à l'écart dans un lieu solitaire ou désert. Ce n'était pas un vrai désert de sable, près d'une ville appelée Bethsaïda. Le peuple, verset 11, l'ayant appris, le suivit, une grande multitude, une grande foule. Il voulait du repos et un endroit calme pour méditer. Il était Dieu, mais il était également homme. Et dans son aspect humain, il voulait méditer. Et il voulait penser, réfléchir, méditer dans un lieu calme. Il savait bien sûr que ceci allait se passer. Mais quand les gens sont venus et qu'ils ont trouvé où il était et que les foules étaient là, non pas simplement des centaines, mais des milliers de personnes, il a été plein de compassion. Et cet événement est également raconté dans les trois autres évangiles, il a été plein de compassion. Il est écrit. Peut-être nous aurions pensé qu'il aurait pu être irrité par ces grandes foules, parce qu'il était épuisé, il avait besoin de méditer, de réfléchir. Non, il a été plein de compassion quand il les a vus. Les autres évangiles nous disent qu'il les a vus comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Ceux qui n'avaient pas de direction dans leur vie, pas de sens à leur vie, pas d'aide, personne pour les diriger. La compassion de Dieu, même avant de continuer avec ce miracle, la compassion de Dieu envers nous, peut-être nous ne pensons pas à lui, nous ne sommes pas intéressés par lui, peut-être nous sommes fiers et nous pensons que nous avons cette vie entièrement pour nous-mêmes, sans Dieu, que nous ne voulons rien avoir à faire avec lui, c'est notre vie et nous ne lui donnons pas l'honneur, la gloire, la louange, nous cherchons rien de sa part. Et sa réaction, c'est de nous voir avec une compassion profonde, une tendresse, et sa miséricorde envers nous est prête à couler la bonté, la miséricorde de Dieu. C'est là la réaction de Christ. Il les reçoit au verset 11 et il leur parle du royaume de Dieu. C'était quelque chose qu'ils avaient besoin de savoir. Ils étaient des Israélites, ils étaient juifs. Ils croyaient qu'ils étaient, eux, le royaume de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Ils se sont convaincus eux-mêmes, en comprenant mal les Écritures, qu'ils plaisaient particulièrement à Dieu, qu'ils étaient, eux, le royaume de Dieu. Et quand Christ leur a prêché du royaume de Dieu, il a dû dire d'une manière certaine des choses qui les troublaient, parce qu'ils définissaient le royaume de Dieu comme ceux qui ont cherché le Seigneur, qui se sont repentis de leurs péchés et qui l'aimaient et qui vivaient pour lui. Et ceci n'était pas ce qu'ils avaient fait. Ils pensaient que le salut était par la race. Christ a enseigné que le salut était par la grâce. Et c'était un don gratuit qui n'a rien à voir avec la race, avec l'éducation, mais c'est uniquement votre relation personnelle avec Dieu et le salut, le pardon de Dieu, la vie qu'il nous donne. Tout ceci est libre et gratuit par la grâce de Dieu, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas mériter ces choses. Il leur parlait du royaume de Dieu. Il y avait des milliers de personnes. Et il y avait là une prédication, et cette prédication n'a pas duré 30 minutes ou 40 minutes, mais pendant des heures, parce que le jour passait et le soir approchait avant ce grand miracle où le Seigneur a nourri cette grande multitude. Et ils étaient là, ils buvaient ses paroles, même s'ils parlaient de choses qui étaient difficiles à entendre pour eux, mais ils étaient là, ils buvaient ses paroles, ils ne pouvaient pas arrêter de l'écouter. Il y avait ces hommes, 5000 hommes. Il y a le nombre d'hommes ici, mais pas de femmes. Certaines personnes pensent que la foule est deux fois plus grande, mais certains pensaient que beaucoup de femmes étaient à la maison avec les enfants. Nous ne savons pas, peut-être 50% de femmes étaient là, et les enfants aussi, ceux qui étaient suffisamment grands pour écouter une grande foule et leur prêchaient pendant tout ce temps, sans qu'ils puissent murmurer ou s'agiter. Il leur parlait du royaume de Dieu, mais parfois il guérissait également, parce que dans une foule telle que celle-ci, dans ces jours-là, il y avait toujours une grande proportion de personnes qui étaient malades. La médecine n'était pas très avancée, les maladies étaient difficiles à guérir, il y avait beaucoup d'infirmités, de handicaps, de problèmes. Et beaucoup avaient des handicaps, des membres qui étaient cassés et qui ne se sont jamais remis en place, et ceux qui étaient courbés. Et il guérissait ceux qui avaient besoin de guérison. Ou dans un autre évangile, il est écrit, il guérissait tous ceux qui venaient à lui. Ils étaient émerveillés devant lui. Et tout ceci était un bienfait tel pour eux, parce qu'ils n'avaient pas vu ceci en Israël depuis des siècles. Au verset 12, « Comme le jour commençait à baisser, le soir approchait, le soleil commençait à se coucher. » Et quelle journée de guérison, d'explication de la parole du royaume de Dieu et cet appel à la foule à chercher le Seigneur, à chercher Dieu, à se repentir de leurs péchés, à connaître Dieu d'une manière personnelle. Et le jour arrive à une fin. Combien ont écouté, combien ont vraiment compris, nous nous demandons, combien sont entrés dans cette relation réelle avec le Dieu vivant en entendant la prédication du Sauveur lui-même. Le temps manquait, il n'y avait plus beaucoup d'occasions, le jour allait passer et je dois faire une pause ici parce que pour beaucoup d'entre nous, dans cet endroit, le jour va bientôt à sa fin. Peut-être un jour ou l'autre, vous n'entendrez plus l'Évangile. Peut-être que c'est votre occasion maintenant. Quelqu'un vous a amené, quelqu'un vous a persuadé de venir. Ou peut-être par curiosité, vous avez écouté un prédicateur. Peut-être que dans peu de temps, vous n'avez plus d'intérêt pour ces choses et d'autres choses vous excitent. Et il y a ces choses dans votre vie qui viennent et qui vous emmènent. Peut-être que cette journée d'occasion arrive à une fin, de se repentir, de chercher le Seigneur personnellement, de connaître son toucher dans votre vie, d'être transformé par lui. Ce sont là des paroles importantes. Et comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie cette multitude, afin qu'ils aillent dans les bourgades et dans les campagnes environnantes pour se loger et trouver des vivres. Car nous sommes ici, dans un lieu désert ou déserté. » Ils étaient là sur une colline près de Bethsaïda. Une colline avec beaucoup d'herbes, dit un autre évangile, avec cette herbe fraîche, cette belle herbe verte là, à ce moment de l'année. Ils étaient là et les disciples pensaient uniquement en termes purement humains. Ces gens ont faim, le Sauveur a prêché, et le jour arrive à une fin, cette rencontre doit être finie et ils doivent rentrer chez eux. Et vous vous demandez pourquoi ils n'ont pas demandé au Seigneur « Est-ce que tu as quelque chose à l'esprit ?» Ce n'est pas son genre que de garder les gens aussi longtemps s'ils ne pourvoyaient pas. Pour ces gens, il y avait beaucoup d'enfants ici également parmi eux, sans aucun doute, beaucoup de jeunes gens. Alors qu'ils ont vu ses miracles, ses merveilles, son enseignement, et qu'ils l'aimaient, qu'ils croyaient en lui, qu'ils croyaient qu'il était le Fils de Dieu, le Messie Tout-Puissant, ne pensez-vous pas qu'ils se sont dit « Seigneur, est-ce que tu as quelque chose à l'esprit ?» Mais non, ils ne pensent pas à ces choses. Et alors, il leur donne un défi au verset 13, mais il leur dit « Vous-même, donnez-leur à manger. Nous ?» Leur donner à manger, comment pouvons-nous faire cela? Ceci va coûter une fortune, nous n'avons pas d'argent. Nous avons regardé partout ce que chacun a. Il y a un garçon ici, comme il nous est dit dans un autre évangile, qui a 5 pains et 2 poissons, mais comment est-ce que nous pouvons nourrir toute cette foule? Et nous n'avons pas de provisions dans cet endroit. L'un des disciples, Philippe, nous dit l'évangile de Jean, était impliqué en cela. Et il vivait dans cette région. Il savait que vous ne pouvez pas chercher des vivres pour toute une foule dans cet endroit. Et c'est un défi pour eux. Donnez-leur à manger. Nous, Seigneur, oh Seigneur, tu dois avoir quelque chose à l'esprit. Quelque chose doit se passer bientôt parce que nous ne pouvons pas le faire. Et cependant, ils ne comprennent pas. Il est Dieu, tout autant qu'homme. Ils croyaient cela, mais ils ne semblent pas en arriver à la conclusion qu'il pouvait pourvoir. Ainsi, le Seigneur a pris les choses en main. Et une chose est claire, c'est que quelque chose doit être fait que les disciples ne peuvent pas faire. Aucun être humain ne peut faire cela, nourrir 5000 personnes et plus, peut-être 10 000 personnes en tout. Certaines personnes disent 20 000 personnes, peut-être que c'est un nombre un peu élevé. Mais pour nourrir ces milliers de personnes sur une colline près de Bethsaïda, dans cet endroit déserté, aucun être humain ne pouvait faire cela. Et voyez-vous, ceci reflète le salut. Nous parlons ce soir du salut. Non pas seulement de nourrir une foule, parce que c'est un miracle qu'il a pour notre enseignement. Aucun être humain ne peut nous amener à connaître Dieu. Aucun prêtre ne peut faire cela. Aucune puissance sur cette terre, aucun thérapeute, aucun médecin ne peut mettre en vous la vie spirituelle et vous donner cette communion avec Dieu, parce que nous sommes tous pécheurs, condamnés par un Dieu, loin de lui à cause de notre vie passée, à cause de notre nature humaine qui a chuté loin de lui. Nous avons tous besoin de son pardon. Et nous avons besoin qu'il nous reconstruise, qu'il nous donne cette vie nouvelle en nous. Car ils étaient environ 5000 hommes au verset 14. Alors il dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangée de 50. » Et quand vous pensez à cela, pourquoi est-ce qu'ils devaient être assis par groupe de 50? Là, sur cette colline, dans ces groupes mis à part, où j'ai lu des hypothèses écrites par une personne il y a quelques années qui essayait de s'imaginer cette montagne où ils étaient tous là par groupe de 50 avec leur habillement plein de couleurs, parce que leur habillement était généralement plein de couleurs. C'était probablement de loin plein de fleurs qui étaient là. C'était probablement un panorama extraordinaire, mais ce n'est pas là la raison. C'était un ordre. Tout ceci était fait dans un certain ordre. Et ceci aidait les disciples à les servir d'une manière efficace et également donner à chacun la même chose. Ainsi, ils étaient là par 50 sur cette montagne. Et ils les font asseoir au verset 15 et au verset 16. Alors Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux au ciel. Le peuple est là assis. Ils peuvent tous le voir. Personne n'est là qui les empêche de voir. Ils peuvent le voir. Il est debout. Qu'est-ce qu'il fait? Ils doivent être pleins de curiosité. Ils se demandaient, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas tous nous donner à manger. Il n'y aura pas de la nourriture pour chacun d'entre nous. Ils devaient être probablement curieux d'une manière intense. Et leur anticipation était là, profonde. Et ils lèvent les yeux au ciel. Ce qui va se passer vient du ciel, c'est-à-dire de Dieu. Ce sera un miracle pour nous enseigner, un symbole. Et les gens vont pouvoir méditer sur ce miracle. Cette œuvre où Christ a nourri cette foule est une illustration de l'œuvre de Christ qui vient librement du ciel. Nous ne pouvons pas payer pour cela. Nous ne pouvons pas œuvrer pour cela ou mériter, mais quelque chose qui est donné du ciel librement, qui vient du ciel, qui vient de Dieu, c'est une image du salut, un enseignement, un miracle pour nous enseigner. Je ne peux pas comprendre comment ceci s'est passé exactement. Je peux vous dire ce qu'il semble s'être passé. Et nous ne savons pas exactement. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, c'est-à-dire qu'il a remercié Dieu pour ces choses, et il les rompit, les poissons, les pains, et il les donna aux disciples. Et la seule manière par laquelle je peux expliquer cela, c'est d'insérer certaines paroles. Et il les rompit et les donna, et les rompit et donna, et les rompit et les donna. Et ceci a continué, il a continué de rompre ces mêmes 5 pains et 2 poissons. Ces petits pains qui étaient des gâteaux de blé, c'était pour les pauvres, les plus pauvres, parce que c'est un garçon qui a contribué, probablement un garçon esclave, qui a contribué avec son repas maigre. Mais ces gâteaux de blé, et il y en avait de plus en plus, et les disciples les ont pris pour les donner à ces groupes de 50 personnes, jusqu'à ce que tous aient été nourris. 5000 personnes, 10000 personnes, peut-être plus, au verset 17, tous en mangèrent et furent rassasiés. C'est une image merveilleuse du salut. Et j'aimerais expliquer ceci de manière simple. Il y a un grand besoin. L'homme ne peut rien faire par rapport à ce problème. Les disciples n'auraient rien pu faire. Le Seigneur leur a demandé « Donnez-leur à manger », mais ils ne pouvaient pas. Personne n'aurait pu. C'est quelque chose que seul Dieu peut faire. donner le salut, le pardon, la réconciliation avec Dieu. Ce cœur nouveau, cette vie nouvelle, cet endroit au ciel, ceci représente le salut. Comment est-ce que ceci peut être possible? Oh, c'est comme les pains et les poissons, ce repas maigre d'un esclave, d'un jeune garçon. Christ est là, et il fait cela. Christ viendra, non pas avec richesse, grandeur, comme un seigneur, comme un aristocrate, comme un noble, mais comme un homme pauvre, un prédicateur. Il va commencer comme un charpentier, ensuite il va prêcher et guérir, et ses guérisons sont là pour l'authentifier comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu lui-même. Ceci montre sa compassion également. Et il va venir et il sera arrêté. C'est pour cela qu'il est venu, c'est la volonté de Dieu. Et il a laissé ceci se passer. Il sera arrêté et jugé de manière fausse et injuste. Et ensuite crucifié à une croix. Et Dieu déversera sur lui la condamnation de tous ceux qui méritent la condamnation éternelle de la part de Dieu. C'est tous ceux d'entre nous qui sommes sauvés. Et il va porter cette condamnation et payer le prix pour nous pardonner librement. Voyez-vous, tout ceci est là représenté dans ces pains et ces poissons qui sont rompus et distribués. Rompus et distribués. Christ sera rompu lui-même, son corps sera rompu et son sang versé alors qu'il souffre et qu'il meurt pour nous. Et de là viendra notre salut. Et cette nourriture rompue est donnée aux disciples pour la distribuer. Et de même pour nous, quand Christ est mort à la croix du calvaire, le message de sa mort expiatoire, de son salut, a été donné aux disciples de la même manière. Et par eux, à l'Église, pour distribuer au monde, de manière à ce que tous ceux qui vont recevoir ce message et manger de ce message, c'est-à-dire comprendre ce message et le digérer et dépendre de ce message, et en recevant ce message, en y croyant, ils vont recevoir la vie éternelle. C'est un miracle qui nous enseigne une image de son salut, de son corps qui est rompu, et cette distribution de la vie, du salut pour tous ceux qui le reçoivent. Nous ne disons pas que ces 5 000, 10 000 personnes ou plus qui ont mangé là sur cette colline de Bethsaïda ont été sauvés. Probablement peu d'entre eux ont été sauvés, mais ils représentent, ils sont une image de comment le salut œuvre. Christ est venu, ceci vient du ciel, il lève les yeux vers le ciel, il souffre, il meurt à la croix du calvaire comme un homme pauvre. Mais il paye le prix pour notre salut, qui est ensuite distribué au monde entier, dans toute l'histoire du monde. Et ceux qui acceptent ce message, qui dépendent de ce message, Christ est mort pour les pécheurs, il est le sauveur, je vais me confier en lui et le prier pour son pardon, et je lui donne ma vie. Ceci, c'est accepter ce message. Alors, ils seront fortifiés et transformés et sauvés. Ainsi, c'est un miracle qui nous enseigne. Et je continue, chers amis, au verset 17. « Tous en mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restèrent. » Et si vous pensez à ceci, 12 paniers pleins, probablement des grands paniers, un pour chaque disciple. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Ce n'est pas simplement une leçon contre le gaspillage, ce n'est pas simplement une leçon qui nous montre que nous devons ranger derrière nous et ne pas simplement laisser des choses à manger sur la colline. C'est une leçon. Ils ont été témoins de ce grand miracle où 5 000 personnes ont été nourries. Quand vous avez vu un miracle tel que cela, oh, vous pensez que cette nourriture est précieuse, c'est la nourriture d'un miracle qui a été produite là devant nos yeux mêmes. Oh, cette personne qui fait ces miracles extraordinaires, ceci est si précieux, nous ne pouvons pas simplement laisser ces choses, nous devons les ramasser et les distribuer autant que possible à d'autres personnes qui en ont besoin. C'était un signe de l'émerveillement qui remplissait les disciples, que, avec plein d'attention, ils sont allés là pour collecter tout ce qui restait. Oh, dans ce symbole du miracle, ceci nous enseigne qu'il y a le salut pour tous ceux qui veulent le recevoir, qu'il y a abondance de salut et de pardon dans le cœur de Dieu pour chacun, tous ceux qui se tournent vers lui. Et ils ont ramassé les morceaux qui restaient. Il me reste quelques minutes et je dois vous dire cela parce qu'au verset 18, il arriva, comme il priait le Seigneur en particulier, seul. Les gens sont partis, il les a renvoyés et les disciples étaient avec lui. Et il leur demande, « Qui disent les foules que je suis ?» Ceci est très important. Voyez-vous, le Seigneur connaissait la réponse, mais il demande aux disciples parce qu'ils doivent réfléchir à cette question et comprendre ce qui se passe. Ainsi, il a nourri les 5000 personnes et il leur a prêché pendant des heures. Il a guéri leurs malades et à présent il dit aux disciples « Qui disent les foules que je suis ?» Quel a été le résultat ? Qu'est-ce que ceci a accompli ? Combien de personnes dans cette grande foule, en voyant cette grande démonstration où 5000 personnes ont été nourries, et ceci représente cette bénédiction qui vient du ciel, qui est distribuée et qui doit être acceptée et reçue par chacun personnellement, après ma prédication qui parlait d'entrer dans le royaume de Dieu, et après le fait que j'ai guéri les malades, qu'est-ce qu'ils pensent ? Quelle est leur conclusion ? Et les réponses sont extraordinaires, les mêmes réponses qui ont été mentionnées auparavant dans le même chapitre. Verset 19, ils répondent en disant « Jean-Baptiste, pourquoi est-ce que la foule pensait que Christ était Jean-Baptiste ? Pourquoi est-ce qu'ils pensaient cela ?» Ressuscité, Jean-Baptiste ressuscité probablement après son meurtre par Hérode. Je vous dis pourquoi c'était une conclusion très erronée et c'est bizarre qu'ils aient pensé cela, mais c'est pour cela qu'ils en sont venus à cette conclusion. Parce qu'ils pensaient que Jean a dit qu'il était celui qui précédait Christ et ils pensaient que c'était un autre qui précédait Christ comme Jean-Baptiste. Ils acceptaient ceux qui précédaient, ils semblaient être aveuglés et ne réalisaient pas qu'ils avaient Christ devant leurs yeux. Jean-Baptiste était celui qui précédait le Messie et à présent vient le Messie. Ils se disaient « Non, il est merveilleux, nous sommes stupéfaits. Oh, si seulement il pouvait être roi, ce qu'il fait est extraordinaire, son enseignement est merveilleux. Mais il doit être un autre qui précède le Messie, il ne peut pas être lui le Messie Christ. » Pourquoi est-ce qu'il disait cela ? Pourquoi est-ce qu'il pensait cela ? Christ, il pensait, sera un prince, un roi puissant sur cette terre pour repousser les Romains, pour que ce pays soit riche à nouveau. Ils étaient si matérialistes qu'ils n'ont même pas reconnu que les prophéties étaient accomplies, que Christ a accompli parfaitement toutes les prophéties anciennes qui parlaient d'un Messie. Ils pensaient qu'il était comme Jean-Baptiste, ressuscité. Et quand Christ viendra, ils pensaient, il sera roi. Certains d'entre eux essayaient de le faire roi par la force, peu de temps après cela. C'est pour cela qu'ils disent Jean-Baptiste, et d'autres disaient non, c'est Élie. Élie est ressuscité. Il est réapparu parmi nous. Pourquoi est-ce qu'ils pensaient à Élie ? Parce que c'est leur nationalisme, leur patriotisme. Ils étaient si fiers de leur nation, nous sommes israélites, nous sommes les meilleurs. Et ce qui se passe, c'est que l'un de nos grands prophètes est réapparu. Ils ne pensaient pas à leur besoin de pardon, de la vie spirituelle, d'un Messie. Et ils pensaient uniquement, « Oh, l'un de nos grands prophètes est revenu, ceci est merveilleux. » Ils pensent constamment, avec plein de confiance en eux-mêmes, « Chers amis, je dois vous donner un défi. » Le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas le connaître si vous pensez uniquement à cette vie, à cette terre, si vous êtes centré uniquement sur votre succès sur cette terre. Parfois, certaines personnes viennent à moi et me disent « Oh, je suis allée dans cette église ce matin, ce soir » et ils me disent « Pouvez-vous prier pour moi? J'ai des examens la semaine prochaine. » « Oh, est-ce que vous venez à l'église ?»« Non, non, je viens juste pour qu'on prie pour mon examen. J'aimerais avoir le succès et réussir. Je veux avoir le succès et la réussite. Ainsi, priez pour moi pour que Dieu m'aide. » Non, ce n'est pas ainsi que vous venez à Dieu. Il ne va pas entendre votre prière. Il ne va pas y répondre. Mais vous venez humblement en réalisant que vous avez besoin d'un sauveur, du pardon, du péché. Le sauveur qui a souffert, qui est mort pour les pécheurs, qui se confie en lui. Et nous pouvons être pardonnés et transformés et marcher avec Dieu, l'aimer, vivre pour lui, le servir. Ce sont là ceux qui cherchent le Seigneur et qui le trouvent. Qui disent les foules que je suis, dit Christ aux disciples. Oh, Jean-Baptiste, Élie, d'autres personnes, mais pas Christ. Et j'aimerais conclure en lisant dans l'évangile de Jean la fin de tout ceci au chapitre 6. Et nous lisons ce qui s'est passé après cela à la fin de ce chapitre au verset 24. C'est là le récit parallèle de Jean. Quand donc la foule vit que Jésus n'était point là, ni ses disciples, ils entrèrent dans les barques et allèrent à Capernaum chercher Jésus. Verset 25, et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, ceci c'est après qu'il nourrit 5000 personnes, « Maître, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, il leur dit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, » mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés, travaillez non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car le Père, Dieu, l'a marqué de son sceau. Ils lui dirent donc, que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, c'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous ne pouvez pas faire ceci par vous-même, vous n'êtes pas suffisamment bon. C'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé, le Sauveur. Alors ils lui dirent, quel miracle fais-tu donc que nous le voyons et que nous croyons en toi? Quelle œuvre fais-tu? Ils ont vu 5000 personnes qui ont été nourries, mais... Il leur répond au verset 35, et c'est là ma conclusion, écoutez cela, et Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie, le pain qu'il leur a donné dans ce miracle, quand il a nourri les 5000 personnes, ceci représentait Christ lui-même, et c'est là ce qu'il dit à la foule qui n'avait pas compris ce qui s'est passé. « Je suis le pain de vie. » Est-ce que vous n'avez pas réalisé ceci? Vous n'avez pas compris ceci? Est-ce que vous n'avez pas réalisé ce que ce miracle enseignait, le message de ce miracle? « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est une image de la compassion de Dieu. Ce miracle, et vous voyez ceci dans la manière par laquelle Christ les reçoit et les enseigne. C'est une image du grand besoin de l'être humain. Des milliers de personnes sont là sur cette colline et le soir arrive, ceci représente la faim de l'être humain. Et nous mourons de faim spirituellement sans Dieu, ceci représente l'incapacité humaine. Et les disciples ne pouvaient pas les nourrir, aucun homme ne pouvait les nourrir. Ceci représente le salut de Dieu qui est quelque chose que Dieu donne du ciel et ceci est gratuit, libre. Ils ont été nourris librement. Ceci représente comment Christ l'a fait. Il a souffert, il est mort à une croix. Ce sont là les pains, les poissons qui sont rompus alors qu'ils sont distribués. Ceci représente la prédication de l'Église. Les pains, les poissons sont donnés aux disciples pour qu'ils les distribuent au peuple. Ceci représente comment vous venez à Christ, comme les gens Mange cette nourriture et se confie en lui. Vous prenez le message pour votre cœur et vous y croyez de tout votre cœur. Et vous priez pour le pardon de Dieu et vous vous donnez à Christ. Et ceci représente cette nouvelle énergie, cette vie nouvelle, cette vigueur que vous recevez. Est-ce que vous comprenez cela, chers amis? Ce miracle qui nous enseigne, le Seigneur qui nourrit 5000 personnes. Est-ce que vous êtes venu à Christ? Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous lui avez donné votre vie humblement? Est-ce que vous avez reconnu que vous êtes pécheur? Est-ce que vous dépendez de la croix du calvaire, de ce qu'il a fait dans sa souffrance, dans sa mort à la croix du calvaire? Ceci est extraordinaire, merveilleux, que Dieu soit venu, qu'il soit venu à la croix du calvaire en Christ, la deuxième personne de la Trinité, qu'il a souffert, qu'il soit mort pour des gens tels que nous. Ceci est extraordinaire. Quel amour immense, incomparable. Comment toi, mon Dieu, tu es pu mourir pour moi? C'est ainsi que Charles Wesley l'a écrit. Chers amis, venez à lui, vous avez besoin de lui. Croyez dans ce miracle du Seigneur qui a nourri 5000 personnes et vous serez sauvés. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce, nous te prions. Amène-nous à ce moment où nous réalisons notre besoin de ton pardon, de ton amour, et à ce moment où nous recevons Christ et où nous recevons d'une certaine manière le message du salut dans notre vie. Seigneur, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais de nous tes enfants. Seigneur, pour que nous soyons un avec toi maintenant et pour toute l'éternité. Seigneur, ne nous laisse pas repartir et mépriser le message du salut et le prendre à la légère, parce que c'est le seul espoir de l'éternité. Seigneur, bénis-nous, nous te demandons ces choses dans le nom de notre Sauveur et pour sa gloire. Amen.